À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
Bonjour Jean Charmois.
Bonjour Frédéric.
On va commencer une nouvelle série d'émissions, 6 précisément, sur les suites du Concile de Chalcédoine. Aujourd'hui, vous allez nous parler des positions théologiques.
Oui, on a déjà rencontré les 3 premiers conciles œcuméniques, Nicée en 325, Constantinople 381, Éphèse 431, et enfin le concile de Chalcédoine en 451, le 4e concile œcuménique, qui va proclamer définitivement la foi de l'Église dans l'incarnation du Christ. Alors, le concile écrit sa définition, « Un seul et même Christ, Fils Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant plutôt gardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase. »
Alors Jean Charmois, Chalcédoine est aussi une pierre d'achoppement dans la chrétienté.
Oui, parce que le concile d'Éphèse avait déjà créé une première rupture avec les églises perses et assyriennes, mais il s'agissait d'églises chrétiennes en dehors de l'Empire, de l'Empire romain. Mais Chalcédoine va créer une déchirure profonde, mais cette fois à l'intérieur de l'Empire. Les églises coptes, syriaques, arméniennes vont se séparer à la fois de Rome et de Constantinople. Plusieurs tentatives vont donc être tentées, après Chalcédoine, pour obtenir le ralliement et l'union des églises orientales, jusqu'à ce que la conquête arabe fige complètement le christianisme oriental, jusqu'à nos jours. Alors ces différences théologiques qui vont surgir auraient sans doute pu être surmontées par les pères de ces églises, qui étaient des hommes de Dieu tous, à n'en point douter, mais qui ont été instrumentalisées par les rivalités politiques, comme hélas trop souvent dans l'histoire, et encore aujourd'hui. Alors, d'une part, les populations d'Égypte et de Syrie ont cherché à secouer la tutelle impériale, au point d'accueillir les Arabes comme des libérateurs. Deuxièmement, la volonté impériale de se mêler des querelles théologiques en vue de l'unité de l'Empire, mais aussi pour asseoir l'autorité de l'empereur en Égypte et en Syrie. Et enfin, les rivalités entre les deux capitales, Constantinople et Alexandrie, et leurs deux archevêques.
Alors finalement, Jean, de quoi s'agit-il ?
Alors moi, j'aimerais bien faire un petit point au stade où on en est sur les différentes manières dont les pères orientaux et occidentaux ont regardé le Christ. Alors ça va être un discours un petit peu technique et je demande à nos auditeurs un peu d'attention. C'est la manière dont les pères, dans la foi, ont cherché à comprendre ce mystère de Dieu et du Christ. Mais si on regarde bien, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui pourraient faire le test « Dis-nous, qui est le Christ pour toi, pour ta foi chrétienne ?» Et on va voir finalement qu'en fonction des réponses, ça peut couvrir le spectre théologique qu'on va rencontrer après Chalcédoine. Il faut bien oublier que les pères sont des hommes de prière, plus que des intellectuels. Leur souci, c'est la fidélité à la tradition apostolique. Ce n'est pas un raisonnement intellectuel. Et c'est leur fidélité à la tradition apostolique, c'est ce qu'ils appellent l'orthodoxie. Tous, sans exception, sont tous considérés comme orthodoxes. Alors, le problème, c'est que tous ceux qui ont cherché à s'approcher du Christ étaient persuadés être dans la foi apostolique, donc orthodoxes. Et on peut s'interroger, parce qu'il y a eu plusieurs axes théologiques très différents, on aurait pu s'arrêter là, hein. On aurait pu faire effort pour se reconnaître mutuellement orthodoxes à travers tous ces courants différents. Mais l'histoire, hélas, a conduit à la création d'églises séparées les unes des autres, et malgré les conciles œcuméniques universels, qui sont censés être inspirés par le Saint-Esprit, et qui ont été réunis pour faire le tri de ce qui était apostolique ou non, et malgré ça, finalement, les chrétiens sont restés séparés. Alors, l'approche des pères, avant et pendant le concile de Chalcédoine, est justement intéressante, parce qu'elle va couvrir tout le spectre théologique sur Dieu et sur le Christ.
D'où la problématique des termes théologiques.
Alors oui, le fond intellectuel commun de tous les pères, grecs et latins, sont les bases philosophiques posées par Platon et Aristote. Les concepts fondamentaux sont les suivants. D'une part, on va distinguer ce qu'on appelle l'essence, l'essence des choses, hein, l'essence des êtres. En grec, ousia, en syriaque, kiana, en latin, essentia, mais souvent traduit par substantia. Alors ça, c'est un mot qui va revenir souvent. La nature, en grec, c'est la physis. En grec, c'est le même mot que l'essence, kiana, en syriaque, pardon, et en latin, natura. Mais la nature est souvent la même chose que l'essence. Enfin, la personne, en grec, prosopon, en syriaque, parzopa, et en latin, persona. Et enfin, le terme hypostase, qui va être le gros sujet, en grec, hypostasis, en syriaque, gnoma, et en latin, étymologiquement, substantia, mais souvent traduit par persona. Alors, ce ne sont pas des termes de l'Évangile, mais les pères vont utiliser ces termes, et sans, il n'y en aura pas d'autres, pour chercher à comprendre le Christ, selon la tradition apostolique.
Alors, première définition théologique.
Alors, premièrement, le Christ est vraiment Dieu. Alors, Arius, l'hérétique Arius, ne dit pas le contraire, mais il dit que le Christ est un Dieu second, inférieur au Père, seul, qui est lui le seul vrai Dieu. Et comme l'Évangile comporte des expressions qui peuvent aller dans ce sens, il va falloir débattre. Sur le fond, c'est inacceptable pour la foi apostolique, parce que tous les pères apostoliques, tous les pères des premiers siècles, confessent que le Christ est vraiment Dieu. Et comment contrer Arius ? Eh bien, on invente un terme qui s'appelle consubstantiel. Et c'est le Fils est consubstantiel ou co-essentiel au Père. Première arrivée des concepts philosophiques dans l'Église.
Deuxième définition théologique.
Alors, dans la même veine, les néo-ariens qui ont été déboutés au Concile de Nicée vont essayer de se rattraper sur le Saint-Esprit en disant, bon, allez, d'accord, pour le consubstantiel du Père et du Fils, mais quand même, le Saint-Esprit, c'est quand même qu'un Dieu troisième. Et dans cette approche, il va y avoir une dégradation divine. Le Père, puis en dessous le Fils, puis en dessous le Saint-Esprit. Impossible pour la foi apostolique. La foi apostolique, elle est fondée sur le baptême, et le baptême est fondé sur la Trinité. D'où la nouvelle précision, toutes les personnes, et ou hypostases, c'est le même mot, sont consubstantielles dans la Trinité. Et voilà qu'apparaît le terme d'hypostase ou de personne. Mais débat entre grec et latin. Parce que la personne en grec, le prosopon, c'est le masque de théâtre, alors que l'hypostase, c'est la substance. D'où deux déviances possibles, assumées historiquement par des écoles de pensée différentes. Alors, soit le risque, c'est de dire un seul Dieu avec trois masques, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont des apparences du même Dieu, soit une essence avec trois substances, c'est-à-dire trois dieux. Alors, heureusement, à cette époque-là, la circulation des idées en Orient et Occident a été très importante. Beaucoup de pères latins parlaient le grec. Les pères orientaux étaient très liés aux occidentaux. Et finalement, des deux côtés, on s'est dit, on ne va pas se battre pour des termes. Tout ça, c'est la même chose. Et on reste en communion. Heureux les artisans de paix.
Et puis, troisième définition théologique.
Alors là, ça se gâte. Parce que c'est la question, qui est le Christ ? Alors, est-ce que c'est un homme réel ou un Dieu ? Est-ce que c'est l'homme Jésus qui a été investi par le Verbe de Dieu à sa naissance ou même à son baptême ? Ou est-ce que c'est le Verbe de Dieu qui est venu dans Marie ? Et là, trois courants théologiques et qu'on va rencontrer avec Chalcédoine et la suite de Chalcédoine, qui auraient pu être non contradictoires, qui auraient pu être se compléter, mais qui vont être exacerbés par deux hérésies inacceptables. Alors, première tendance, l'école d'Antioche, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, son représentant, c'est Théodore de Mopsueste. Le Christ est vraiment Dieu, mais aussi vraiment homme, corps et âme, et il a assumé l'homme tout entier. Sinon, l'homme n'est pas sauvé. Et l'humanité et la divinité sont unies, sans confusion, dans une seule personne. Tout ça, c'est orthodoxe. Les orientaux, en Perse, vont suivre la version syriaque suivante. Le Christ est une seule personne, en deux substances correspondant à ces deux natures, parce que les mots personne, substance et nature sont différents en syriaque. Alors, l'école, ensuite, deuxième école, l'école d'Alexandrie. Le représentant par excellence est Cyril d'Alexandrie. C'est Dieu qui, par amour, veut sauver l'homme déchu et qui s'incarne volontairement dans Marie, la mère de Dieu. L'unité de la personne est fondamentale et les deux natures se compénètrent au point de n'en former mystérieusement qu'une seule, ce qu'on va appeler le monophysisme. Si bien qu'on peut dire, d'une part, que Dieu a souffert et que, d'autre part, Jésus est assis à la droite du Père. Troisième approche, qui équilibre les deux, c'est la définition du Concile de Chalcédoine, qui associe un regard sur l'humanité assumée réellement par le Christ, le meilleur de l'école d'Antioche, et la contemplation de Dieu venant sauver l'homme par miséricorde, c'est-à-dire le meilleur de l'école d'Alexandrie. Équilibre exprimé par une formule, une seule personne en deux natures, ce qui est encore la foi des chrétiens orthodoxes et catholiques. Mais là-dessus, deux hérésies vont se greffer. La première, la radicalisation de l'école d'Antioche, dans laquelle, on va dire, il y a deux personnes dans le Christ, il y a Jésus et il y a Dieu, et ça, c'est considéré comme une hérésie. C'est Nestorius. Hein. Et d'autre part, le radicalisme de l'école d'Alexandrie, on va dire, la divinité a complètement absorbé l'humanité, le Christ est passé, Dieu est passé dans Marie comme dans un canal, sans vraiment prendre l'humanité. Il n'y a pas de nature humaine dans le Christ. Donc ça, c'est l'hérésie d'Eutychès. Et ces deux hérésies vont faire craindre aux uns et aux autres que chaque école était soupçonnée d'en faire trop. Et donc, par crainte des deux extrémismes, les Antiochiens et les Alexandrins vont juger le Concile de Chalcédoine, qui est un compromis entre les deux, qui est au milieu des deux écoles, comme favorable à l'école adverse. Donc les deux vont rejeter le Concile de Chalcédoine. Et du coup, à l'issue de Chalcédoine, la chrétienté va se trouver partagée entre ces trois tendances, donnant naissance à trois églises séparées, qui, et la séparation dure toujours. D'une part, l'église chalcédonienne, celle de l'église catholique romaine et des églises orthodoxes d'aujourd'hui, les églises cyrilliennes en Égypte, en Syrie, en Arménie, et enfin les églises antiochiennes dans la Perse et dans l'Extrême-Orient. Et toutes les suites de Chalcédoine vont être des tentatives pour restaurer tant bien que mal l'unité théologique sans y arriver.
Et ça sera l'objet de notre prochaine émission. Jean Charouin, merci.
À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.